RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous.
C'est le best-of des GG que vous retrouvez, les meilleurs moments de la saison des grandes gueules. Avec nos GG bien sûr, avec vous au 32-16, toutes ces discussions qu'on a pu avoir comme tous les jours du lundi au vendredi durant 3 heures.
On parle de tout dans les GG, on a parlé de la fessée avec des parents encore, 36% d'entre eux qui légitiment la fessée. On a parlé également de la journée de la femme, doit-elle devenir fériée? Et puis des caméras piétons testées sur les arbitres dans la VAR, est-ce que c'est efficace?
C'est une étude IFOP qui est révélée aujourd'hui par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Un Français sur deux est victime d'agression ou de discrimination à caractère raciste au cours de sa vie. Et c'est recensé sur les 5 dernières années.
Oui, si l'on en croit cette étude, le racisme est loin d'être un phénomène marginal ou résiduel, puisque près d'une personne sur deux estime avoir déjà été victime de racisme selon ce sondage IFOP. Ceux qui sont les plus concernés par cela sont les juifs, les musulmans, les individus perçus comme noirs ou arabes sont 80% à rapporter des agressions ou discriminations au cours de leur vie. Étude réalisée sur un échantillon de 14 000 personnes. Alors quand on parle d'insultes, ce sont des moqueries désobligeantes, des propos vexants, etc. Alors est-ce que vous partagez ce constat, le racisme est encore bel et bien présent dans notre société et concerne beaucoup de gens?
Est-ce que vous le constatez au quotidien? 32-16 pour dire Joël, est-ce que tu le constates encore au quotidien ou pas?
Écoute, là je peux même plus parler de quotidien. Je veux dire, entre ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, et ce qui se dit dans la vraie vie, je veux dire, j'ai l'impression que toutes les couches de la vie sont imprégnées. Alors moi, personnellement, je n'y suis pas confrontée dans la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, ça je peux dire que ça y va, dans la vraie vie. Par contre, moi je sais que j'ai des gens de mon entourage, de ma famille, qui sont confrontés à, je dirais, très poliment, du laisser-aller verbal. Des collègues qui se laissent aller verbalement sur leur façon de penser les musulmans, les noirs par-ci ou par-là. Et j'ai notamment une personne de ma famille qui a dû se couper parce qu'elle a découvert chez 3 ou 4 amis qui, elle est noire, hein, et qui ont oublié même qu'elle était noire et qui lui dit, bah ouais, mais tu sais, ces gens-là aussi, etc. Enfin, elle me dit, mais c'est incroyable. Enfin, c'est des trucs que j'entendais pas parce qu'elle a plus de 40 ans, hein. Donc c'est des trucs qu'elle entendait pas quand elle était plus jeune. Donc oui, et l'élection, l'élection du maire de Saint-Denis, alors ça, je peux vous dire que ça a achevé de mettre les derniers clous sur le cercueil de ce que je pensais être la France. Ah non, mais carrément. Quand je vois les réactions que ça a donné, quelles réactions ça a donné lieu, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc oui, je comprends ce sondage-là. Il est véridique puisque c'est chiffré, c'est sourcé. Hein. Je crois que c'était 7% d'augmentation sur l'année d'actes racistes, antisémites, etc. Donc c'est pas beau pour le pays. Hein. C'est vraiment moche.
Barbara. Voilà.
Oui, les chiffres montrent une nette augmentation, en particulier tout ce qui va être violence verbale, ce que disait Joël, les injures, les provocations. On est sur plus de 60% des faits recensés couvrent des injures et des provocations verbales, qui évidemment sont, c'est même plus démultiplié, c'est que je pense même personnellement que les réseaux sociaux sont le déversoir, servent quasi maintenant pratiquement exclusivement au déversoir de la haine. Nous qui sommes des personnes publiques, nous en faisons les frais. Je crois que tous autour de la table, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un de nous ici qui n'a pas été victime de violence verbale, mais à connotation raciste.
Non, pas moi.
Alors, peut-être
raciste,
pas toi.
Justement.
Pas raciste, non. Mais des menaces
pas raciste,
de mort.
Pas raciste, voilà. Oui. En tout cas, Joël et moi, nous avons droit régulièrement, moi étant une sale sioniste, génocidaire, etc. Encore sioniste, ça va quand... en fait, je comprends bien ce qui est dit derrière le mot sioniste, donc ça me gêne pas, j'ai bien compris, merci. J'ai reçu le message 5 sur 5. Tout ça se transforme dans la vie sur des menaces réelles. Parce que c'est quand même là qu'il faut en venir. Parce que moi, je veux bien... on est sur des menaces verbales. Moi, en tant qu'enseignante, je sais, parce que il n'y a pas que l'affaire Samuel Paty, mais en particulier l'affaire Samuel Paty, fait que je sais combien la réitération multiple des insultes et des menaces peuvent un jour ou l'autre se transformer en passage à l'acte. Oui. Donc c'est très inquiétant, la situation de ce pays. Je pense qu'elle est alimentée de tous côtés. Et je le dis clairement, elle est alimentée de tous côtés parce que oui, il y a une parole raciste qui s'est libérée. Moi aussi, j'entends des gens, ça glisse vite vers les Noirs et les Arabes. Peut-être que certains se sentent en confiance d'avoir ce genre de parole libérée, les Noirs et les Arabes. Non, je suis désolée, c'est pas les Noirs et les Arabes. C'est des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Blancs, des ci, des là. Ça se classe en typologie de gens qui, oui, commettent des actes délictueux, mais on ne dit pas les, on n'essentialise pas. Mais en revanche, je vois aussi de l'autre côté que le racialisme qui s'est développé depuis une dizaine d'années avec tout ce club des racisés là qui nous ont expliqué il faut des réunions interdites aux blancs, etc. D'un autre côté, donc, le racialisme, il a alimenté le racisme aussi. Donc, du coup, on est dans cette France polarisée entre des gens chez qui, oui, le racisme se banalise. Et de l'autre côté, une autre forme de racisme se banalise. Mais c'est le racisme bien vu. C'est le racisme comme on le subit soi-même. On peut pas être nous-mêmes des racistes. Si, si. Les gens qui subissent le racisme peuvent aussi être racistes et antisémites. Et oui, croyez-moi que je le vois régulièrement. Donc, étant aussi, je voudrais terminer là-dessus, en tant que prof, je suis très inquiète. Je suis très inquiète de la banalisation du racisme et de l'antisémitisme chez les élèves, qui même entre eux rigolent en se traitant de négros, etc. Moi, ça me fait monter aux arbres à chaque fois. Je leur dis, mais moi, je sanctionne des élèves qui entre eux rigolent en se traitant de négros. Ça me fait pas rire. On parle pas d'un camarade en se disant, elle négro. Non. Voilà. Donc ça se banalise énormément.
Ça vient des États-Unis, des chansons.
Bien sûr,
d'où ça vient.
Barbara a raison que même les gens qui subissent le racisme peuvent être racistes. C'est vrai, mais ceci dit, je suis pas d'accord pour dire que c'est le racialisme qui a nourri le racisme. Le racisme existait bien avant le racialisme.
J'ai pas dit ça.
Je veux dire, on est sur des siècles d'histoire. Oui. On n'est pas sur 2022, 2023 de LFI. Hein. Attention.
Non,
donc,
je dis qu'il le.
Non, mais il faut faire
le parti des indigènes de la République, c'est bien avant LFI.
Il parle de ce qu'on appelle la tenaille identitaire.
Ouria Boudedja, elle existait avant LFI.
Je veux dire, le racisme, c'est pas. C'est pas 2022, 2023 ou 2020.
Voilà.
La résurgence de moi, je sais pas si c'est le racisme qui est revenu ou si c'est la parole qui s'est libérée. Peut-être que les gens étaient racistes et qu'ils n'osaient pas le dire. Là, ils se sentent libres de le dire. Et t'as raison sur les élèves parce que moi j'ai un de mes neveux qui effectivement a rencontré ce problème-là. Donc entre élèves, on est sur des petits. Hein. On n'est pas sur des gros ados, etc. Et le principal du collège a dit oui, on sait, on est en train de s'en occuper, on a beaucoup d'actes comme ça. Il y avait un groupe WhatsApp qui circulait où on traitait un élève de singe, carrément. Ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie et qui touchent des enfants qui n'ont absolument rien demandé. Donc il serait temps quand même que les autorités se saisissent de ça. Et le maire de Saint-Denis a tout à fait raison quand il a dit que il avait entendu le silence, l'air et l'oxygène passer du côté d'Emmanuel Macron face à ce déferlement raciste qui s'est abattu sur lui.
Bruno, puis on va écouter Tony ensuite au 32.
Moi, je fais partie des gens, des 54% de gens qui n'ont jamais eu d'insultes racistes. C'est une évidence quand on me regarde. Après, moi, je trouve que la parole s'est libérée. Et je trouve que c'est aussi de la faute de ceux qui entendent la parole qu'aujourd'hui ça s'est développé, parce qu'en fait il faut être intransigeant. Et moi je suis intransigeant. Quand autour de moi j'ai des gens qui parlent qui emploient certains mots, qui soient antisémites, qui soient racistes ou même homophobes, grossophobes, ce que tu veux, je suis intransigeant. Et j'en ai même fait malheureusement les frais personnellement. C'est que moi je parle plus à ma mère depuis 13 ans parce que mon beau-père avait il employait des mots, il ne savait pas dire ni maghrébin ni noir, il savait dire que bougnoul est négro ou est nègre. Et donc à un moment donné, moi j'ai supporté ça pendant des années parce que j'étais obligé. Et puis un jour, j'ai dit stop, quoi. Parce que je pense qu'il faut être radical dans ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, si tu veux combattre la parole raciste, t'as pas d'autre choix que d'être toi-même radical dans le truc en disant non, on peut pas dire ça. Et après voilà, faut factualiser le truc et tout. À un moment donné, c'est comme ça. Et évidemment que ça va coûter, parce que aujourd'hui, quand tu vois qu'aujourd'hui t'as 50% de gens qui se sentent qui ont été victimes de racisme, et peu importe lequel en plus. eh ben tu vois bien que t'as 50% de gens à éduquer et t'as 50% de gens à leur expliquer. Parle pas comme ça en fait, voilà. Et qu'à un moment donné, eh ben donc toute la journée tu vas passer ton temps à faire ça, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, ça va augmenter. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec des choses. On a vu des choses dans les médias sur le maire de Saint-Denis qui était, mais alors là, moi, je trouvais qu'on était à l'époque d'édition 48, la fin de l'esclavagisme. Hein. C'est parti dans tous les sens. Et puis, je te parle même pas d'un tas de trucs. Alors, les réseaux, moi, j'en parle même plus parce que forcément, les réseaux, c'est ni fait ni à faire. Et aujourd'hui, à partir du moment qu'on veut pas réguler. Et moi, j'entends les grands défenseurs de la liberté de parole. Moi, je suis désolé. Mais quand tu menaces les gens de mort, quand tu leur promets un viol et tout, je sais pas
pourquoi c'est pareil. Quand on t'a dit tout à l'heure, excuse-moi juste de préciser une chose. Quand on te parle de la liberté d'expression, on te parle la liberté d'exprimer des opinions politiques.
Oui, mais sur les réseaux, il faut les réguler.
Je n'accepterai jamais. Il n'y a pas de liberté pour les menaces. Il n'y a pas de liberté pour les menaces, pour je vais te violer, je vais te décapiter, etc. Mais il y a la liberté d'exprimer tes idées, même si politiquement elles sont radicales.
Non, mais d'accord.
Tony est au 32-16. Bonjour, Tony.
Bonjour.
Bonjour. Vous faites partie de ceux qui ont subi le racisme ou pas, Tony?
Alors, pas les 5 dernières années, mais moi, depuis que j'ai été enfant, je suis d'origine italo-foraine. Donc, je suis d'origine italienne par mon père et j'ai une famille de forains par ma mère. Et moi, quand j'étais enfant, j'entendais... et pourtant, j'ai grandi dans une petite ville de 4000 habitants où il y a un quartier ouvrier. Enfin, on se connaissait tous. C'est des gens lambda. C'était toute la journée, ouais, sale macaroni, rentre chez toi, sale rital, ou alors c'était retourne dans ta caravane, parce que comme je suis d'origine foraine, forcément les forains et les gitans, on est cousins, hein, donc retourne dans ta caravane, retourne vivre sur ton terrain de camping. Enfin voilà quoi, c'était ça.
Vous avez quel âge, Tony?
45 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Il fallait bien pour fêter ça que je passe aux grandes gueules. Hein.
Et justement, Tony, même si bien sûr c'est condamnable et on l'a tous vécu, mais est-ce que quelque part dans votre jeunesse, ça ne vous a pas renforcé aussi? C'est-à-dire, vous vous êtes pas dit, faut surmonter.
Faut se battre.
Mais à quelle heure ça renforce?
Non.
J'allais outre de toute façon, parce qu'il n'y a pas le choix.
Voilà, vous alliez outre, mais.
Moi, j'ai grandi dans mon petit quartier, il y avait mon pote, mes copains, Morgane, etc., qui était d'origine italo-vietnamienne. Il y avait Vincent qui habitait de l'autre côté du boulevard, qui était d'origine hindoue. On était obligés d'aller contre. Et pourtant, on a grandi dans une ville de 4000 habitants, en Champagne, moi, quand il y avait les jeux de fin d'année, il y a des parents, ils voulaient pas que les enfants jouent avec moi parce que j'avais la peau plus mate que les autres.
Mais savez, Tony, qui est d'origine italienne, qu'en Italie, les Italiens eux-mêmes, par exemple, vont être extrêmement... on va dire méprisant, voire plus vis-à-vis par exemple des Italiens du Sud.
L'Italie du Nord, oui, l'Italie riche, l'Italie du Sud, c'est l'Italie des pauvres.
Mais c'est pour ça que j'ai dit votre âge pour ça.
Il y en a beaucoup qui disent que l'Italie du Sud, c'est juste des Africains qui ont su nager.
Mais ce qui est dingue, c'est que Tony, qui a 45 ans,
oui, c'est ça,
il entend des choses qu'en fait on entendait entre deux guerres, parce qu'en fait c'était le bouquin de Cavanagh qui s'appelait Les Ritals, qui expliquait entièrement ça, où il expliquait ce qu'il avait vécu comme racisme anti-italien.
Non, mais la question de Barbara, désolé, ça m'a vraiment choqué, le fait de demander si ça n'avait pas renforcé. On a eu les bienfaits de la colonisation. Maintenant, on a les bienfaits du racisme.
T'as pas compris. T'as pas du tout compris ce que j'ai voulu dire. Je ne t'ai pas dit que grâce au racisme, on se renforce. C'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que quand tu vis dans une société dans laquelle il y a du racisme, et je répète que je pense qu'il y en a dans toutes les sociétés, toutes les civilisations, je pense que tu dois dire à ton enfant, parce que tu sais qu'elle va être victime de racisme, parce que tu sais qu'elle croisera dans sa vie la route de quelqu'un qui lui dira t'es une sale noire, t'es une sale juive, etc. Tu lui dis voilà, toi tu vas essayer d'être forte, tu vas pas te laisser abattre par ça. Toi tu es fière de ce que tu es et tu vas pas te laisser ravager par cette parole qui est une parole qui vient de gens qui ne doivent pas prendre l'ascendant sur
toi. Je suis d'accord avec toi et c'est le discours que j'ai tenu à ma fille. Mais dans ma génération, t'as énormément de parents parce que nous on a grandi dans une génération où c'était touche pas à mon pote. Hein. Donc avec des parents en plus qui t'expliquent que tu parles pas ta langue parce qu'il faut il faut t'intégrer, etc. Te fais pas mal voir. On est vraiment dans la première génération qui sont nées ici. Et je vois mes copines, par exemple, qui sont de la même génération que moi, elles ont été démunies face au racisme que leur enfant a subi. Parce qu'en fait, elles ont tellement été éduquées dans la France de touche pas à mon pote, qu'elles se sont dit, non mais toi, en plus, c'est souvent des enfants métis, parce qu'elles ont des enfants métis. Et donc, elles se sont dit, de toute façon, bon, il y aura pas ce souci-là, en plus, ils sont à l'école, etc. Et elles m'appellent en me disant, mais je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que je dois lui dire? Elles ne l'auront jamais tenu de discours sur le fait qu'ils puissent rencontrer du racisme.
Merci à Tony d'avoir témoigné dans les GG. RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
C'est une enquête inédite auprès de plusieurs milliers de, justement, de ces livreurs que l'on voit parcourir nos rues. Avec aujourd'hui, on peut établir leur profil de travailleurs précaires. Quoi.
Oui, il y a une étude qui a été faite auprès de ces livreurs à vélo. Ils ont été plus de 1000 interrogés et ils ont raconté leur vie de travailleurs, vie laborieuse. Ils passent en moyenne 63 heures par semaine sur leur vélo pour moins de 1000 euros net par mois. Donc, on voit quand même que c'est un travail à la fois très difficile, pas bien payé. En même temps, ça leur donne du boulot. Souvent, ce sont des personnes issues de l'immigration qui
ou
font
des clandestins.
Et des clandestins, souvent aussi.
Alors, légal ou illégal, ça, il faut voir.
On en a 64% qui travaillent sans titre de séjour. Donc, les deux tiers n'ont pas de titre de séjour.
Ils travaillent pour des grandes plateformes qui répondent à une demande, un besoin, puisque ça s'est beaucoup développé, la livraison à vélo. D'ailleurs, pas uniquement pour les repas, à peu près pour tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ceux qui commandent sont complices?
Oui, ça s'appelle de l'esclavage moderne.
C'est ce que j'allais dire.
Moi, je
c'est
suis navrée.
Si,
quand tu fais pédaler quelqu'un 63 heures par semaine et qu'il est payé moins de 1000 balles, j'invite encore une fois, je l'ai conseillé à avoir à mes élèves, je l'invite, et j'invite tout le monde à regarder ce film qui s'appelle Souleymane. Ça vous raconte ça, c'est-à-dire un migrant sans papier qui vient en l'occurrence là du Nigeria, qui doit absolument travailler parce qu'il doit envoyer de l'argent à sa mère qui est gravement malade au pays et qui donc sous-traite la carte de travail à un compatriote qui lui évidemment l'arnaque, qui ne lui verse jamais ce qu'il lui doit, et ce pauvre Souleymane qui passe son temps à courir sur son vélo, à rater le bus pour rentrer à l'hébergement de nuit, qui finit par dormir dans la rue et qui finit d'ailleurs par rompre du coup le mariage qu'il doit faire dans son pays, et qui même dit, déconseille vivement à sa conjointe de le rejoindre, et qui lui dit non, surtout ne viens pas ici, c'est quand même l'enfer. Donc je ne comprends pas le Parisien, le Bordelais, le Lyonnais, qui souvent d'ailleurs, a le cœur tellement sur la main, aime tellement le peuple, aime tellement voter souvent, excusez-moi, je le dis, oui, un peu à gauche, parce que vraiment, il est soucieux du travailleur. Mais pour son sushi ou son pokéball, là, il faut que Souleymane, il vienne et vite fait. Et on lui dit à peine merci. On lui dit à peine merci. Donc moi, cette hypocrisie, moi, j'en ai marre. Je souffre quand je les vois. Moi, je ne commande jamais. Parce que pour moi, quand je les vois pédaler, je vois des esclaves modernes qui pédalent. Et c'est cette société, oui, c'est les consommateurs qui produisent ça. Et souvent, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas prendre leurs deux petites jambes pour aller acheter le sushi au coin de la rue qui tourne.
Moi, je suis tout à fait d'accord sur la terminologie de l'esclavage moderne. Et puis, cette hypocrisie bobo-gauchiste qui est bien contente d'être servie par des profils de noirs en galère, faut clairement le dire.
Exactement.
Bah oui, le petit noir qui vient te servir, ça rappelle une autre période, et là, ça les gêne pas. On voit pas les militants antiracistes là faire des manifestations pour eux. Non seulement ils sont exploités, les soucis de santé, c'est une catastrophe chez eux aussi, d'accord. Honte à l'entreprise qui les embauche, mais honte à toutes les personnes qui consomment. On connaît ces profils depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est médiatisé aujourd'hui que c'est un phénomène nouveau. Ça fait vraiment longtemps.
On compte aussi à leurs compatriotes qui les exploitent, hein, parce que c'est ce que montre bien aussi le film Souleymane.
C'est tout un système où le chien se mord la queue, mais le consommateur sait à qui il va avoir. Il y a pas une grosse diversité parmi ces livreurs. On sait c'est qui. On sait que c'est des personnes à qui on peut mal parler aussi souvent, parce que faut écouter certains témoignages des personnes qui sont traitées comme des chiens. Donc tout ce peuple bobo, honte à eux. Et oui. Oui, nous sommes quelque part tous coupables, et aussi les politiques qui ne font rien. Hein. Parce que, encore une fois,
quoi, tu veux l'interdire ?
Mais non, mais il faut peut-être regarder un petit peu ce qui se passe, peut-être sanctionner l'entreprise qui les exploite aussi.
Attendez, il n'y a pas d'exploitation, pardon. Ce sont des travailleurs libres, ce ne sont pas des salariés, ce sont des auto-entrepreneurs. Voilà, donc sortez-vous ça de la tête. Et vraiment, ils prennent ce boulot parce qu'ils ne peuvent pas en prendre d'autres. Je ne dis pas que c'est juste.
Et donc, il y a un exploitant qui a abusent de leur détresse.
Mais non, mais en fait, bah, oui, tu n'abuses pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de prendre le boulot.
Mais il n'a pas le choix.
Il
n'a
pas le choix.
Il n'a pas le choix. Le migrant sans papier, il n'a pas le choix.
Il n'y a pas que des migrants.
Pourquoi il n'a pas le choix?
Quand on a deux tiers, c'est beaucoup.
Attendez, j'essaye de finir. Bon, en introduction, moi, je n'utilise pas ce service pour des raisons personnelles, éthiques, mais surtout parce que c'est hyper cher. Donc déjà, il n'y a que des gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent utiliser ça. Donc on parle vraiment de très peu de Français, les plus aisés qui commandent. Voilà. Ensuite, moi je pense que je ne suis pas contre l'idée que ça puisse exister. Pour des étudiants qui veulent se faire un peu d'argent, il n'y a pas besoin de diplôme, on a sa petite auto-entreprise, c'est facile.
63 heures par semaine, attendez, l'étudiant, il va ensuite, pas avoir beaucoup le temps d'étudier.
Mais non, moi j'ai un fils. Ensuite, les plateformes prennent une part trop importante. Il y a une part qui est trop faible, je suis d'accord. Mais l'enjeu fondamental aujourd'hui, et on le voit tous, c'est ce que tu décris, c'est la façon dont notre supposée bienveillance permet à des clandestins de rester sur le territoire, on continue à faire espérer et ils se retrouvent coincés à 63 heures dans ce type de boulot.
Donc
commençons par mettre un terme au séjour irrégulier dans notre pays et on réglera beaucoup de ces soucis, on nous parlera plus d'esclavage parce qu'il sera plus possible de rester dans notre pays si tu n'es pas autorisé.
On est d'accord, c'est bien parce que ils sont on les maintient sur le territoire national dans une situation de précarité extrême, à dormir sous le périph, etc. C'est normal qu'à un moment ces gens-là essaient de travailler de façon illégale pour pouvoir s'en sortir, vu que on peut pas vivre des années, parce que pour certains c'est des années à être baladé entre la préfecture et les associations qui exploitent la misère de ces gens-là, parce que vous avez toutes les associations qui aussi exploitent leur maintien sur le territoire national et ils en ont rien à faire, les Utopia et compagnie, que le gars aille s'épuiser sur un vélo, se casse une jambe et continue à faire du vélo avec une entorse quasiment fracturée. Donc moi je suis désolée, il y a toute une chaîne d'exploitation là-dedans qui, pour certains, c'est une chaîne d'exploitation avec pour autant la main sur le cœur, et tout ça c'est vraiment l'hypocrisie de notre monde. Donc tout le monde est responsable dans cette chaîne-là, aussi bien les pouvoirs publics, les consommateurs que les associations.
Aussi,
je vais expliquer, par exemple à Paris, la plupart des restaurants fonctionnent avec un service de livraison avec les deux grandes marques qu'on va pas citer mais qui sont derrière Alain Marchal. Et pour les restaurants, c'est devenu quand même une clientèle très importante parce que les gens vont moins au restaurant
c'est
qu'avant.
C'est du chiffre d'affaires.
Donc les gens sortent moins en fait en quelque sorte et c'est du chiffre d'affaires. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place.
Le problème n'est pas dans l'existence de ces postes, c'est dans les conditions de travail.
C'est ce que j'essaie de dire. Moi, je pense que ça a amené un service et qu'on en reviendra pas en arrière.
On exploite des gens au mépris de la dignité humaine.
Je suis désolée, bien sûr. Doucement.
Regarde ce qu'était l'esclavage.
Non, esclavage moderne.
On a dit moderne.
À 5 euros de l'heure, c'est de l'esclavage moderne. Si ça existe.
Les VTC, c'est pareil. Il y a des VTC qui gagnent pas beaucoup d'argent.
Je suis d'accord avec toi.
Beaucoup d'heures, etc.
La question, c'est pas.
Il y a des nounous qui gardent les enfants bourgeois.
Au noir.
Qui sont
payés, qui sont souvent d'ailleurs des clandestins.
Le SMIC est un minimum. Fini. En réalité, le SMIC est beaucoup trop haut et notre société n'est pas en mesure de le payer pour beaucoup de jobs.
C'est un grand moment de demande de révolution de la part de nos GG.
Révolution.
C'est ce que voudrait le président de la République. Alors, on dit plus débranche, mais déconnecte-toi. Il veut une journée de la déconnexion, le président.
Oui,
Macron.
C'est son combat de fin de quinquennat. Emmanuel Macron qui a été alerté, comme d'autres, par cette nouvelle étude du Centre National du Livre qui montre qu'il y a une baisse très importante du temps de la lecture chez les 7-19 ans. Nos jeunes ne lisent plus ou quasiment plus. Et donc, face à l'explosion du temps d'écran et l'impact donc chez les jeunes, l'impact aussi des algorithmes sur nos enfants, le chef de l'État déjà veut interdire, vous le savez, les réseaux avant 15 ans. Bon, ça va pas être simple, on sait pas trop comment il va faire. Et puis il veut aussi, alors ça sera peut-être plus simple, lancer la journée hors ligne. Il va d'ailleurs l'annoncer aujourd'hui lors d'une rencontre avec 350 élèves franciliens. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une journée de la déconnexion? Et est-ce que vous pensez qu'elle serait respectée si on la lançait?
Alors c'est une très bonne idée, mais comment on l'a fait respecter?
les parents. C'est un pays libre.
Bah oui.
Tu dis, c'est la journée de la déconnexion.
C'est vrai que si c'est Poutine qui te dit on déconnecte, c'est plus crédible déjà, tu appliques.
Oui. Bah, je crois, ils prennent le portable.
C'est comme en Corée du Nord.
Non, mais il faut encourager la lecture.
Chez les 7-9 ans, après pour les autres, tu te dis.
Moi, je vois pas quel parent face à un ado est capable de faire ça.
Va dire à ton ado, ah, c'est la journée Macron de déconnexion.
Bonne chance. Aujourd'hui, donne ton portable. Je te le garde.
Alors, est-ce que ça peut au moins faire réfléchir ce jour-là? On en parle.
Non, mais c'est ridicule parce qu'en fait, si les gamins ne lisent pas, c'est parce que les parents ne lisent pas. Toi, pourquoi tu lisais quand t'étais gamin? Parce que moi, je voyais mes parents lire, en fait. Moi, j'ai lu des bouquins parce que chez moi, déjà, tu te collais pas à la télé pendant 24 heures. Et surtout, je voyais mes mères lire et puis mon père lire. Donc, je me suis à un moment donné, puis moi, j'ai commencé à m'affiler des bouquins, j'ai lu. Aujourd'hui, les gamins lisent pas. Moi, j'ai mon meilleur ami. Ces gamins, quand ils étaient petits, ils avaient un bouquin à lire, ils étaient en feu, hein. Donc, à un moment donné, ils essayaient de trouver une fiche pour de réduction, puis c'était réglé, hein. C'est comme ça qu'ils faisaient leur truc. Alors... Et puis, donc, c'est pour ça, en fait, faut arrêter. Et puis, alors, écoutez-moi, hein.
Donc, quand j'entends
Macron et déconnexion, je me dis que le plus déconnecté de tous, c'est quand même lui, hein. Il faut être sérieux, hein.
Moi, j'ai des amis qui mettent leur portable dans
c'est
un livre.
C'est le quinquennat à la déconnexion. Ouais, c'est liseuse.
Attends, vas-y, balance tes copains.
Comme on dit beaucoup que les enfants, faut les ménager, faut pas leur montrer des écrans, faut pas leur montrer des mauvaises habitudes. J'ai des amis qui font comme ça, pour ceux qui sont à la télé, ils prennent un livre, l'excellent Occident, dont on vient de parler, et ils mettent TikTok à l'intérieur, le téléphone, et ils sont comme ça sur le canapé.
Ah
et
oui, ils pour faire croire.
Les petits enfants, mais une fois que les enfants grandissent, ça marche plus.
Mais tu dis, mais dis donc, t'as pas tourné de page depuis 10 minutes, là.
Non, mais
t'es
au bouquet, là, l'envers.
Quand ils ont 3-4 ans, ils comprennent pas encore. Et puis
donc, en fait, vous êtes en train de dire que le combat est perdu.
Bah, évidemment.
Mourad, est-ce que c'est bien au moins de pousser la réflexion?
Moi, ce que je peux vous dire dans les chiffres de l'édition, je veux dire, la littérature générale, fait ce qu'on appelle la littérature générale, c'est moins de 2%, avec des best-sellers comme celui de Sarkozy, de Bardella, de Villiers, qui ne sont pas de la littérature, mais qui sont inclus là-dedans. Donc, je n'imagine pas les chiffres si on retire ces best-sellers.
Et la BD?
Et la BD, c'est moins 9%, avec une grande partie sur le manga, qui est en chute libre, et Femmes de ménage qui cartonne. Ouais. Alors, ça va pas être rassurant. Le seul secteur dans l'édition qui est en hausse, c'est son livre de coloriage.
Oui, c'est ça.
Ouais, on est à plus 4 ou plus 5% pour le livre de coloriage.
Comment ça se fait
parce que les adultes,
c'est pas d'explication, c'est le livre de
coloris. Bah oui, tu sais bien, les albums de coloriage, c'est pour adultes maintenant.
Ah bon?
Oui, Alain, je sais. C'est le monde dans lequel nous vivons.
Voilà. C'est même adultes qui vont voir Dorothée aussi.
Non, moi j'en ai un.
C'est les mêmes.
Moi j'en ai un et ça m'aide à me concentrer.
On est sauvés, tiens.
Moi j'en ai un et ça m'aide à me concentrer.
Ça t'aide à concentrer ou ça te détend?
Je le fais en travaillant. Par exemple, je suis dans un call avec en visio pour le télétravail ce matin, et en même temps, je colorie à une main et ça m'aide à me concentrer.
Alors, moi, je vais faire une petite confidence. J'aime bien colorier avec mon fils de 5 ans.
Voilà. Parce que j'ai un TDAH. Mais si je vous mets en même temps le mot coloriage et TDAH,
non, mais c'est vrai.
Mais alors, après, juste pour terminer, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut développer la lecture, on a réduit les chèques lire, qui était une bonne idée pour les gamins d'avoir des chèques. Il faut inciter pour les inciter. Il faut faire des cadeaux, quoi. Il faut aider la librairie qui est en grande difficulté dans ce pays parce que les libraires, ce sont quand même des gens qui sont précurseurs, qui peuvent vous conseiller. Pour moi, c'est très important.
Il faut faire de moins en moins des libraires.
Il
y a de moins en moins des libraires.
Il y a de moins en moins, et c'est un métier précaire aujourd'hui, libraire. Je veux dire, parce que, Amazon.
C'est une passion, comme on dit.
C'est aujourd'hui
que
la vente sur Internet a tué la librairie. D'autant qu'on est sur un prix imposé, la loi Lang fait qu'il y a un prix imposé.
À l'idée de.
Mais personne ne va se déconnecter.
On pourrait faire une journée.
C'est Macron qui faut déconnecter.
Est-ce que c'est gadget, encore une fois?
Mais comment tu veux une journée en ligne?
C'est impossible. On va pas aller chez chaque bout français pour vérifier s'il s'est déconnecté.
Ouais. Et puis surtout, si c'est Macron qui dit, personne ne le fera. Hein.
Aujourd'hui, c'est peut-être ça le problème. C'est qui porte le message.
Et surtout, qui a le pouvoir politique? Les politiques, ils sont censés voter des lois, émettre des décrets, des arrêtés, des circulaires. Là, c'est quoi? C'est une parole divine? De quoi on parle? On parle d'un président de la République qui conseille aux enfants? C'est quoi le véhicule législatif de cette idée?
Un rôle de parent aussi. Moi, je veux dire que les enfants lisent, c'est le problème des parents, comme tu le dis très bien.
Bruno, il s'appelle.
Bruno, pardon.
T'as eu un bug, là.
Oui, j'ai eu un bug. Et après, c'est aussi j'ai grandi, j'ai lu beaucoup de livres, grâce à des profs aussi, qui m'imposaient de lire Maupassant. J'avais pas envie de lire Bellamy de Maupassant, ça m'a passionné. Ensuite, je voulais voir d'autres bouquins, je voulais lire du Victor Hugo.
Les Contes de la Bécasse, ça, c'est un super bouquin. Je rigole.
Voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir un prof de français qui m'a expliqué qu'il y avait un roman populaire français de très grande qualité. Donc je me suis mis à lire du Arsène Lupin et choses comme ça. Et puis ensuite,
je pense que c'était le dernier Bardella.
Non, pas le dernier Bardella. Voilà, c'est, je crois qu'il y a un vrai rôle à faire chez les enfants, de leur expliquer que le monde de l'imaginaire qu'il y a dans sa tête et qu'un livre permet de créer, bah, il est aussi puissant que le monde de TikTok.
Mais regarde, va chez n'importe qui, peu importe la classe sociale, quoi que ce soit. Avant, tu rentrais chez des gens, t'avais une pièce où c'était
la bibliothèque, c'était la bibliothèque sociale.
C'est le cas chez moi.
Aujourd'hui, tu vas chez des gens. Moi, je connais plein de gens chez qui je vois jamais un bouquin. Et moi, quand j'étais gamin,
il y a une bibliothèque, mais il y a une bougie dedans.
Ouais, moi, quand j'étais gamin, j'avais à partir de 12-13 ans, j'habitais avec ma mère, mon beau-père, et il m'avait foutu dans un endroit pour faire mes devoirs, parce que je les faisais pas. Et en fait, à côté de moi, il y avait bibliothèque. Je ne faisais pas mes devoirs. Je lisais tous les bouquins à la bibliothèque. J'ai tout lu.
Et t'avais des trucs aussi qui étaient à une époque. T'avais, bon, moi, je suis vieux. T'avais la bibliothèque verte qui était précurseur. Il y avait des trucs sympas à lire. Voilà.
Oui, tout ça.
C'est par ça, oui.
Non, mais il y a quand même une offre considérable. Alors là, c'est pas un problème d'offre, même pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de livres.
C'est un problème de prix aussi, je veux dire. Le livre, Olivier, aujourd'hui, le livre coûte cher. Le livre coûte cher parce que le papier a augmenté, il a un prix fixe. Et aujourd'hui, un livre, ça coûte cher à fabriquer. Et donc, forcément, ça répercute sur le prix de vente. Je veux dire, un livre, c'est 20 balles. Tu peux pas acheter.
Regarde, aujourd'hui, tu vas chez Louis Gerbier, tu vas pas te retrouver face à une bibliothèque, tu vas te retrouver face à Vélo Magazine ou Pinard Magazine. Gerbier, lui, le bouquin, l'a jamais lu, tu vois.
Donc, il n'y a pas de mal de Pinard Magazine.
Oui, je sais, c'est toi qui es l'éditeur.
Mais... on a Sandra qui veut intervenir, elle est du côté du Nord, elle est à Roubaix. Bonjour Sandra.
Bonjour les GG.
Bon, est-ce que vous pensez que ça peut être bon d'instaurer une journée de la déconnexion, une journée hors ligne, dites-moi.
Alors, l'idée en soi, on va pas critiquer, pour une fois que c'est une bonne idée. Par contre, moi, en tant que maman, j'ai deux ados, 16 et 14. Donc, on est en plein dans le sujet, effectivement. Mais nous, ce qu'on a instauré, c'est qu'on s'est obligé, hein, c'est du temps qu'on prend, de dire, bah, allez, au soir, on arrête le téléphone, il est posé, et c'est des jeux de société, mais des jeux tout bêtes. Du Uno, on a joué au Puant la semaine dernière, mais c'est lunaire, peut-être. Mais c'est une heure, et aujourd'hui, c'est ce que je disais à votre collègue au standard, moi, c'est les petits qui viennent nous dire, on fait un jeu de société, s'il vous plaît. Et c'est même eux qui sont demandeurs.
Donc, quel âge ont-ils?
16 et 14, on en
Mais 16 et 14, est-ce que 16 et 14, ils arrivent à rester un quart d'heure devant un livre?
Oui, quand même. Quand même.
Oui. Alors, je vais revenir sur une petite phrase qui m'a... les magazines, moi, j'ai une prof en primaire qui était géniale, elle disait, laissez lire, faut qu'ils lisent, mais même un magazine, c'est très bien,
bien sûr.
Grand.
Bien sûr.
Il a fond dans tout ce qui est automoto, il lit que des magazines, un manga, bah,
c'est déjà bien, c'est mieux que
et
rien.
Il est fan de manga. Des fois, je suis rentrée dans la voiture, le livre, il est à moitié attaqué. Mais parce que, tout petit, bah, on prenait le temps. On lisait ensemble, dans le lit, pendant une heure. On prenait ce temps d'être ensemble et de pas de téléphone, même en tant que parent. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de parents à table. Moi, je suis commerciale, hein, le resto, le midi, je le vois.
Ils sont sur les portables.
On est tous sur les portables.
Ouais. Mais ça veut dire, Sandra, qu'il y a tout le temps chez vous donc des magazines ou des livres qui traînent ça et là, quoi.
C'est
ça.
Oui, mais anecdote toute bête, j'ai 48 ans, mon fils, ils ont un temps de lecture au collège, aujourd'hui, on appelle ça. Il a pris un livre, La mécanique du cœur, parce que ce livre est magnifique. Le petit de 14 ans, il a lu La mécanique du cœur. Il a été dans la bibliothèque et il l'a pris.
C'est pour ça qu'il faut remettre en place un maximum de checklists. Je vais faire une métaphore maladroite, c'est ni la première ni la dernière. La lecture, c'est comme un dealer. C'est-à-dire le dealer, il offre la première dose parce qu'il y a une addiction. Et par rapport à des jeunes qui sont un peu rébutés par la lecture, je suis certain que s'ils commencent à lire un livre, ils vont trouver ça super, ils vont lire un deuxième et un troisième. Mais il faut enclencher le truc.
C'est
ça.
Mais c'est aux parents aussi de donner un petit peu.
Voilà, parce que j'allais dire, la déconnexion, qui l'a fait respecter, la déconnexion, Sandra, selon
vous? Pour moi, ça reste à la maison, c'est en tant que parent, c'est d'inciter et de motiver le jeu de société. Je vous dis, c'est tout bête, hein. La boîte de Uno, elle est dans la petite table, en dessous dans le tiroir de la petite table, on sort le Uno. Mais il n'y a rien de transcendant. Mais on a instauré ce moment-là, et puis c'est un moment de famille.
C'est aussi du temps de consommation qui manque.
Je voudrais qu'on écoute Eric qui est avec nous, qui est professeur de golf. Il a 4 enfants, Eric. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec la journée déconnexion?
Mais notre président c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin d'un président. On a besoin de parents qui soient un peu ouverts d'esprit. Donc, je veux dire, être à l'ère d'Internet et les intérêts des enfants, on peut pas. Mais on peut faire un ratio entre les faire lire et non. Nous, les quatre enfants, même ceux qui ont, même celle qui a 21 ans, elle continue toujours à lire. La dernière qui a 10 ans, la première chose qu'elle demande, c'est dès qu'on sort faire des courses, je voudrais acheter un livre, je voudrais acheter un livre.
Nickel,
certes, les livres sont chers, mais bon, je préfère acheter des livres que des bêtises à côté. Et ça n'empêche pas qu'ils ont tous des téléphones. Et la petite, elle a une autorisation d'une heure à une heure et demie, grand maximum, par jour de téléphone.
Donc c'est aux parents de se responsabiliser, ouais, de responsabiliser les enfants.
Un des problèmes du livre aussi, c'est qu'il a mal franchi l'étape du numérique. On lit pas beaucoup sur le numérique et il a mal géré ce truc parce que le moment magique du livre, c'est quand on tourne la page. Quand on tourne la page, c'est le moment qui nous appartient. On a l'interprétation de ce qui se passe. Et sur le numérique, on l'a pas, ça.
Il y a beaucoup de gens quand même qui lisent maintenant sur tablette.
Ah, on en voit pas beaucoup. Beaucoup plus aux États-Unis par exemple, qu'en France.
Ouais.
En France, on est encore attaché. Moi, je suis attaché au papier.
Vous qui êtes éditeur, vous connaissez. Moi, j'ai un très bon ami qui est chez Fleurus, qui fait tous les livres pour les enfants. Mmh. Il a essayé de faire pendant des années l'imagerie, d'ailleurs. Il a essayé pendant des années de faire le numérique avec les livres, mais les personnes aiment.
Ça passe pas. On n'a pas franchi ce cap. On n'a pas franchi ce cap. Par exemple, pour les mangas au Japon, les mangas se lisent quasiment plus que sur des portables.
Ouais. Merci Eric et Sandra d'avoir été avec nous, d'avoir partagé vos expériences personnelles. Merci à tous les deux. Bonne journée.
Merci.
Merci, au revoir. Alors, est-ce que une journée hors ligne, est-ce que ça peut être efficace ou pas?
Une journée hors gouvernement.
Oui ou non, on va voir. Oui ou non, oui ou non. Non, 92%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
On parle de la fessée, pourquoi? Parce qu'on a un tiers encore aujourd'hui des parents qui légitiment la fessée, alors que ça s'apparente à un acte de violence sur les enfants et que c'est interdit. Est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que vous êtes choqué? 32-16 pour le dire aux grandes gueules.
Oui, c'est interdit par la loi depuis plusieurs années, mais visiblement, il y a des parents qui s'en fichent. Et puisque 36% d'entre eux interrogés dans cette étude légitiment toujours la fessée à des fins éducatives. Selon l'étude, un parent sur cinq a donné une fessée ces 12 derniers mois. Et 7 parents sur 10 admettent avoir déjà crié sur leur enfant. Des violences à la fois physiques et verbales. Alors les experts vont nous dire que ça a des conséquences catastrophiques sur l'enfant. Quand on est parent, on relativise quand même un peu tout ça. Mais dans les textes, effectivement, la fessée, c'est interdit. Il y a d'autres façons de faire que de frapper son enfant pour lui faire comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a de la résistance chez certains parents?
C'est toujours l'hypocrisie française, hein, c'est une marque de fabrique. On a l'ASE avec des enfants en déshérence.
Oui.
On a l'enfance maltraitée, des enfants qui sont battus, qui sont affamés.
On a les enfants violés dans le périscolaire.
Des enfants dans le périscolaire qui sont violés. On a un taux d'inceste absolument hallucinant. Mmh. Et tout ça est mis sous silence. C'est même pas grande cause nationale. C'est-à-dire que tous les experts et tous les spécialistes et tous les gens qui sont dans ces métiers-là, les pauvres, je les plains, vraiment, je les soutiens, c'est horrible pour eux. C'est vraiment terrible, l'ASE étant le problème numéro un, où les enfants sont livrés à eux-mêmes à 17-18 ans.
On avait reçu l'auteur du livre La Fabrique du Malheur. Ouais.
Voilà, c'est insoutenable. On a ça, ce drame français, et puis à côté de ça...
Est-ce que tu as mis des fessées à tes enfants?
Bien sûr. Mais bien sûr.
Mais des fessées.
Parce que quand ils faisaient les idiots et que des fois on était débordé et que t'en peux plus.
Attention, il y a moins de 6 ans parce que au niveau de la prescription, c'est 6 ans.
Mais
hein,
je
donc si tu veux pas qu'on vienne te chercher.
En fait, je m'en fiche totalement.
Voilà, c'est ça.
La preuve, le réel, c'est la preuve. C'est-à-dire que moi, j'ai deux fils qui ont 40 et 38 ans, qui sont heureux, qui aiment leur maman et leur papa et qui sont épanouis. Et donc, il faudra prouver. Moi, j'ai envie de dire, prouvez-moi qu'une petite fessée de temps en temps.
Non, mais voilà.
Prouvez-moi qu'une petite fessée, alors qu'on laisse les enfants battus sous silence, en
pas
aidant
si
même.
Je suis en train de dire, foutons la paix à ces parents-là.
Qui a reçu des fessées déjà? Sandrine, est-ce que tu étais une enfant turbulente ou pas?
Est-ce que certains en reçoivent encore peut-être?
Alors. Ah ouais, commence pas.
Mais entre adultes, consentants, c'est permis.
Antoine, est-ce que tu as reçu des fessées?
Évidemment, mais surtout, attends, pour
donner... Ah oui, évidemment, c'est une évidence.
Tout s'explique, Antoine. C'était l'échelle des peines, tu vois, l'échelle des peines familiales.
t'avais la petite punition, etc. Et c'était attention aussi.
Oui, mais c'est pas parce que ça se faisait avant que ça doit se faire maintenant.
Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut évidemment du discernement. Un gamin qui prendrait des fessées tous les jours, c'est pas entendable, etc. Mais comme peine maximum dans l'échelle pénale familiale, dans l'échelle pénale éducative, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, t'as des enfants qui disent à leurs parents, de toute façon, t'as pas le droit de me mettre une fessée, gna gna gna. Et donc, on a tué une forme d'autorité. Je pense vraiment, Sandrine, que c'est très comparable à une politique pénale.
Je suis là pour représenter la justice.
C'est ça. Non, pas au GG. Hein.
Vas-y.
On n'a pas pris d'avocat.
Depuis 2019, la loi interdit les violences éducatives. C'est d'accord. Vrai. Donc la fessée n'est plus considérée comme un moyen d'éducation légitime.
Et quand violence, tu dis d'ailleurs physique et verbale aussi. Hein.
Psychologique, oui.
Psychologique.
Quand tu dis il y a fessée, c'est pas possible parce que à quel moment tu vas modérer au niveau de l'intensité de la fessée, etc. Il y a des expertises psychologiques qui disent que une fessée, plusieurs, ou ne serait-ce qu'une seule, ça peut à un moment donné aggraver le côté anxieux de la personne, donc
les
de l'enfant,
que et pareil pour l'agressivité.
Moi,
pas...
je vais
me
faire l'avocat
mais attends,
laisse finir, Sandrine.
Et c'est pas parce que nous, on en a reçu quand on était petit. Bon, tu vois, il y a plein de choses qui se faisaient à notre époque, d'accord? On parle de Gérard Depardieu, etc., et tout, avec ses propos graveleux, tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus toléré. Donc, comment tu veux que la justice, tu parlais de preuves, comment tu veux que la justice, elle puisse déterminer qu'il n'y a eu qu'une fessée qui finalement, elle n'a pas fait grand mal, elle a permis de corriger certains traits, et d'autres qui finalement,
est-ce qu'il fallait l'inscrire dans la loi? Je suis d'accord avec toi, en tant que père, je préconise pas la fessée comme méthode éducative.
Comme une règle.
Mais d'ailleurs,
on n'a pas à confondre autorité et violence.
Ni le fait de crier sur ses enfants, etc.
Tu peux éduquer sans violence.
Dans la mesure possible, effectivement, de ne pas crier sur ses enfants. Puis malheureusement, parfois, les parents peuvent être exaspérés, écrits, ou donnent une petite tape, parce que par réflexe. Néanmoins, fallait-il faire une loi sur ça, déjà?
Oui, bah oui, parce qu'il y a eu des abus. Olivier, il y a eu des abus, il y a eu beaucoup de maltraitance.
Non, mais là, je te parle pas. Je termine. Je parle pas bien sûr des maltraitances qu'il faut les combattre. Oui. Et deux, effectivement, comme le dit Zora, on peut effectivement culpabiliser ses parents, mais quand on voit chaque jour quand même les dysfonctionnements de la surveillance,
mais c'est pas le même débat.
Mais si, de la maltraitance des enfants. Olivier. Quand tu vois dans le périscolaire géré par une autorité publique, on a laissé faire des choses abominables. Et chaque jour, il y a de nouveaux témoignages.
Non, mais tu débordes, là, ce n'est pas le sujet. Là,
pas.
Là, on parle des violences intrafamiliales.
J'aimerais bien qu'on se mobilise plus pour ça et qu'on laisse peut-être les parents gérer leur affaire.
La loi dit que. Mais sauf que la loi, le peuple. Alors, si je peux m'opposer à toi, je peux dire que le peuple dit qu'il y en a marre de laisser aussi les violences s'installer et de fermer
mais bien
les
sûr.
Yeux.
Mais donc, alors, excuse-moi, regarde.
Pourquoi on écouterait la loi?
Si tu veux qu'on légitime la fessée. Autoriser combien de fessées par an?
Non, mais dans ces cas-là, on en est là.
Non, mais on n'était pas obligé de légaliser. Enfin,
alors, attendez, je voudrais qu'on ait eu des abus.
Il
n'y
a pas d'exemplarité de l'État sur la violence.
Pierre, bonjour.
Oui, ça oui.
Il n'est pas exemplaire.
Sachez, je te rejoins amplement.
Bonjour.
Pierre, bonjour, bienvenue.
Bonjour,
Pierre de
bonjour
Toulouse.
Olivier, bonjour l'équipe.
Bonjour Pierre.
Commercial, est-ce que, je sais pas, vous avez encore des enfants en âge de recevoir une fessée
oui,
ou non?
Oui, j'ai un enfant de 3 ans, bientôt 3 ans et demi, et j'ai une petite de 5 mois.
Et alors, vous mettez une petite fessée au suite de 3 ans?
Moi, je suis totalement de la team, je crois que c'est Zora qui est là.
Oui.
C'est Zora pardon, j'ai plus le prénom.
Et moi, Antoine aussi, je suis plutôt.
Et Antoine, pardon, je suis désolé, Antoine.
Pas de souci.
En fait, moi, mon petit de 3 ans et demi, en ce moment, il est totalement dans l'âge, vous savez, de la confrontation, du test, en fait. Et bah, il m'arrive, alors, c'est clairement pas systématique, ça a dû m'arriver 3-4 fois en 3 ans et demi, une petite tape sur les fesses, parce que là, il a vraiment poussé le bouchon un peu trop loin. Une petite tape sur les fesses et puis au coin et puis tu vas aller te calmer dans ton coin et c'est pas pour autant que ça en fait un enfant traumatisé.
Mais que vous croyez, vous verrez après si malheureusement vous continuez à perpétrer toutes ces fessées, vous allez voir que ça peut engendrer de l'agressivité et de l'anxiété chez votre enfant.
Non, mais calmez-vous s'il vous plaît, c'est pas une grosse fessée, c'est une petite tape sur les fesses déjà de c'est pas une grosse fessée. Et puis deuxièmement, moi ça me fait rire ce pays qui marche une fois de plus sur la tête, où en fait on nous enlève, nous les parents, tout moyen entre guillemets éducatif et d'autorité de répression sur nos enfants. Et par contre, où on demande de la répression à des jeunes adultes qui n'ont pas reçu apparemment assez de petites fessées. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais l'autorité, elle peut s'imposer autrement que par la violence.
Olivier, regarde, qu'est-ce qu'ils font en Finlande?
Olivier, vous êtes parent, Olivier, oui, vous êtes parent, vous aussi. Bah, on commence par le dialogue. Et bah, quand le dialogue il
l'échelle
passe
des peines.
Et quand le dialogue il passe pas, qu'il continue sa bêtise, et ben on parle un peu plus fort. Et quand vraiment ça passe pas et que là c'est une grosse bêtise, parce que moi je parle en connaissance de cause, j'ai une petite de 5 mois et mon petit voilà, et en ce moment il y a une petite, ouais, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi, mais des fois il a tendance à s'en prendre un peu à sa petite sœur.
Oui,
et bah quand il est un peu violent avec sa petite sœur, bah c'est la petite tape sur les fesses. Mais c'est normal en fait. C'est comme ça que j'ai été.
Non mais Pierre, l'État veut cadrer. Attendez, le pire c'est que l'État veut cadrer.
Cadre déjà.
L'État cadre la fessée, mais par contre, il est absolument absent sur la violence faite aux enfants. C'est ça qui est dingue. Donne des leçons aux parents quand toi, t'es irréprochable. C'est-à-dire que toi, tu découvres, comme Français, dans la société, des choses immondes, incroyables, enfin, des trucs hallucinants. Ouais,
enfin, l'État n'est pas non plus responsable,
oui,
violences intrafamiliales.
Les défaillances, des signalements, oui. Les absences,
oui,
les dénis, etc. C'est l'État. Oui. Je suis désolée, quand tout le circuit dysfonctionne et qu'on découvre l'horreur, et toi, on te dit, tu dois être exemplaire en tant que parent et que même une fessée, c'est illégal. D'accord ? Alors moi, je pourrais accuser l'État, je pourrais faire un procès à l'État pour tous ces enfants abandonnés entre les mains de criminels et de gens violents et à qui on ne porte jamais secours.
Ah ben, l'État a déjà été condamné pour ça.
Le nombre d'enfants qu'on retrouve avec des bleus qui sont signalés et que ça passe crème, ça passe
Pierre,
à la trappe
on va écouter
et on retrouve
Laurent,
l'enfant des années plus tard.
Laurent qui est agriculteur dans l'Indre.
Il reste où il est.
Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier.
Alors vous avez entendu Pierre, il dit bah de temps en temps avec son petit là, c'est une petite tape pour recadrer et je sais pas, vous avez des enfants vous aussi.
Oui, exactement. Moi je suis complètement d'accord avec Pierre. Moi j'ai deux filles là qui ont maintenant 25 et bientôt 30 ans.
Vous leur collez des fessées encore ?
Bah non, ça c'est fini.
Ah ben voilà.
Eh ben oui, mais non, je veux dire quand on disait le traumatisme plus tard, moi je me retrouve pleinement dans le discours de Pierre, évidemment qu'à un moment donné, c'est un degré. C'est pas une éducation en soi de faire de la fessée. C'est un degré. Et à un moment donné, quand on est sur les 3, 5, 6 ans, et bien à un moment donné, c'est un acte. Mais à mon nom, jamais voulu. On est très fusionnel en plus avec
mes filles. Mais ça n'a rien à voir avec lui qu'elle vous envoie.
Et s'il vous plaît.
Elles n'ont pas été perturbées, c'est ce que vous dites.
Ah non, et je peux vous dire que je suis en âge bientôt d'être grand-père. Mais moi, si elles appliquent la même règle que moi, eh ben il y aura pas de problème, je les conseillerais même. Et je peux vous dire que moi si je les garde en tant que grands-parents, si elles me les mettent, ça sera ma règle aussi à moi. Mon père a été comme ça.
Et
moi,
les enfants et vos filles accepteront ?
Alors ouais, faut s'adapter aux enfants.
Je leur demanderai leur avis. Si elles ne s'y opposent pas, et oui, j'appliquerai cette règle. J'ai énormément d'amis qui sont de notre âge. Ils ont tous fait comme ça.
C'est un truc de garçon, Pierre et Laurent.
Mais d'ailleurs, dans l'étude, il démontrait que c'est plus les pères qui donnent des fessées que les mamans.
Attendez, on a Marion qui va intervenir. Marion Delin. Bonjour, Marion.
Bonjour à tous.
Vous avez entendu Pierre et Laurent. Qu'est-ce que vous en dites alors?
Ben alors, moi j'en dis que quand j'étais petite, j'ai mes parents qui nous mettaient des fessées. Alors c'était à l'occasion, hein. Quand ils en avaient marre, quand ils avaient déjà crié plusieurs fois et tout. Je me rappelle donc on avait très peur. Enfin en tout cas pour ma part, j'avais très peur quand j'entendais mon père monter l'escalier en bois là qui arrivait. Vous savez quand on allait en ramasser une. Honnêtement, ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que c'était par la peur, on arrêtait ponctuellement, mais après, si on voulait recommencer, on recommençait. Et j'ai pas voulu reproduire ce schéma-là avec ma fille.
Très bien.
Donc voilà. Par ailleurs,
s'est bien passé. Et c'était tout dans l'incarnation de l'autorité.
C'est encore mieux, même j'imagine.
C'était dans le verbe, quoi, en fait, Marion. C'est ça.
Et puis même dans les actions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, stop, tu t'arrêtes, ça suffit. Maintenant, tu vas dans ta chambre un moment. Après, depuis qu'elle est née, je me suis beaucoup renseignée sur le fonctionnement des enfants et tout ce qui est neurosciences. Et on sait maintenant que la peur qu'engendre une fessée ou ce genre de choses fait que il y a des diffusions d'hormones de peur et ça empêche l'apprentissage.
Et c'est vrai. Marion, je vous remercie. Ouais, parce que
les boomers, est-ce que une génération d'abrutis.
Sandrine,
non, mais tant mieux que Marion ait ce mot de la fin en disant que oui, on peut éduquer sans violence. Et je vais juste rappeler ce qu'encourent Pierre et Laurent. Ils encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Merci Pierre, Laurent, Marion. Vous aurez conclu la discussion.
RMC jusqu'à midi. Le meilleur des grandes gueules.